Alors, vous avez vu la bénédiction des enfants. Il y avait la petite Louise Célestine. Il y avait Pierre Knapkins. Et la petite Yéline Joe. Eleni Larousse, que nous avons béni ce matin. Quel plaisir, vraiment. Ils font un bon travail, les parents aussi. Hein? Alors, la dernière fois que j'ai pris la parole, je vous ai parlé de l'amour entre frères et sœurs et de l'importance de celui-ci. Mais pour qu'il y ait des frères et des sœurs, il faut une église. Voilà. Alors, Dieu a donc bâti une église, n'est-ce pas? Et pourquoi a-t-il pris cette décision? L'église n'est pas un groupe de gens qui se réunissent pour le plaisir tous les samedis et quelquefois supplémentaires sur l'année. Ce n'est certainement pas un club de bridge ou autre. L'église est encore moins un bâtiment avec un toit particulier. Il est évident que Dieu a ses raisons. Nous allons voir ça maintenant. Matthieu chapitre 16, verset 18, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 16, verset 18, qui dit, « Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre elle. Mais pourquoi? Pourquoi avons-nous besoin de cette église? » Eh bien, aujourd'hui, je voudrais me pencher sur la question qui a été souvent abordée par M. Armstrong. Vous savez, Dieu ne fait pas les choses à la légère. Et si dans le monde, beaucoup de gens posent des actes religieux, si beaucoup de gens suivent des rituels religieux, souvent ils ne savent pas pourquoi. De nombreuses personnes profitent de ces célébrations pour faire du commerce. Ça, c'est évident. Mais frères et sœurs, vous savez bien, Dieu est réfléchi. Il a un plan magistral qui concerne l'humanité entière, morte et vivante. Et tout ce qu'il fait est dans un but particulier, pour une raison particulière. Malachie chapitre 3, s'il vous plaît, verset 1. Malachie chapitre 3, verset 1. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Christ était le messager de l'alliance, de la nouvelle alliance. Moïse avait été le médiateur de l'ancienne alliance. Il s'agit de deux alliances différentes pour des époques différentes. Mais lors de ces deux époques, Dieu œuvrait et Dieu œuvre à travers un groupe de gens. Le groupe dont Dieu se servait dans l'Ancien Testament portait un nom d'un homme, Israël. Appelé l'Assemblée d'Israël ou la Congrégation des enfants d'Israël, la Congrégation dans le désert. Tandis que le groupe utilisé par Dieu dans le Nouveau Testament porte son nom, c'est l'Église de Dieu. Le premier groupe est formé des descendants de cet homme nommé Israël. Et le deuxième groupe est formé de gens qui sont engendrés par Dieu au moment de leur baptême. Le groupe de l'Ancien Testament avait des liens de sang. Et c'est pourquoi qu'il est symbolisé par un chandelier à sept branches. Alors que le groupe du Nouveau Testament n'a pas de lien de sang et est symbolisé par sept chandeliers séparés. Mais entre les deux, il y a la venue du Christ sur terre. Le Christ dont la venue avait été préparée par Jean-Baptiste. Il est venu annoncer un message. Il est venu bâtir son Église. Il est venu mourir pour l'humanité. Marc chapitre 1, verset 14, s'il vous plaît. Marc, le premier chapitre, l'évangile de Marc, premier chapitre, si vous voulez bien. Marc 1, verset 14. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. C'est donc en Galilée que le Christ se met à prêcher l'évangile. Et c'était l'évangile de Dieu, l'évangile du royaume de Dieu, que nous célébrons tous ensemble. Verset 15. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez en la bonne nouvelle. Le temps est accompli. Frères et sœurs, Dieu est attentif au temps. Et son plan est décrit avec un timing assez précis. Le Christ n'est donc pas venu à un moment spontané, mais à un moment bien calculé, bien précis, selon son plan bien établi. Remarquez qu'il invita les gens à se repentir. Dieu dur de se repentir pour un homme, car cela signifie qu'il doit admettre qu'il a tort. Et la nature humaine n'aime pas admettre ça. Mais la conversion est une guérison spirituelle, et la guérison ne peut pas commencer sans qu'on admette qu'on a tort. Il faut donc ouvrir les yeux sur ses erreurs, ses péchés, les admettre. Et une fois qu'on reconnaît ses erreurs, alors on est réceptif à ce que Dieu nous enseigne. Et pour laisser Dieu nous enseigner, il faut cesser de se baser sur des raisonnements personnels, mais s'en remettre à la parole de Dieu, enseignée finalement par l'Église. Les enseignements de l'Église sont conformes à la parole de Dieu. Et les conseils des anciens y veillent. Nous devons faire table rase de toutes nos croyances, toutes nos anciennes croyances. Et laisser Dieu nous révéler la vérité. Nous ne pouvons pas nous accrocher à nos anciennes croyances et accepter la vérité. Il faut vraiment tout remettre en question, toutes nos anciennes croyances, et tout apprendre. Le Christ invita donc, lors de son ministère, les gens qui l'écoutaient à se repentir, admettre qu'ils avaient tort, et puis il les invita à croire l'Évangile, à croire la bonne nouvelle. Et cet Évangile est une bonne nouvelle. C'est le message qu'il était venu apporter. Et ce message est le venu du royaume de Dieu. Il n'était pas venu l'instaurer, il était venu l'annoncer. Mais bientôt, il va venir l'instaurer. Marc 1, verset 16. Marc chapitre 1, le verset 16 maintenant. Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, verset 18, « Ils laissèrent leur filet et le suivirent. » Ces deux hommes ne laissèrent pas que leur filet, ils laissèrent leur métier, leur vie, leur ancienne vie. Ils laissèrent leurs anciennes croyances pour découvrir la vérité. Verset 19. Étant allé un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui eux aussi étaient dans une barque et réparaient les filets. Et aussitôt, il les appela et, laissant le père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, ils le suivirent. Eux aussi abandonnèrent leur vie professionnelle et le suivirent. Verset 21, nous continuons. Ils se rendirent à Capernaum et le jour du sabbat, Jésus entra de beau dans la synagogue et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Ils ne sont pas mis à discuter avec lui parce que ses enseignements étaient contraires à ceux qu'ils croyaient. Non, ils étaient réceptifs, prêts pour une découverte surprenante. Ils étaient étonnés par les enseignements que le Christ donnait. Et comme vous le voyez, dès le début, il est question d'apprendre. Il est question de découvrir la vérité. Il fallait donc un enseignement. Ce n'était pas encore le début de l'Église. Elle allait commencer 3 ans et demi plus tard. Mais le Christ mettait les choses en place et tout commençait par un apprentissage, comme nous avons entendu hier soir par M. Whitfield. Tout comme notre vie de chrétien est un apprentissage continuel. Le Christ choisit donc des disciples. Et il devait leur enseigner une foule de choses afin de les préparer, pour les préparer à être les instruments dans la fondation de son Église. Ces gens allaient devoir enseigner les gens qui seraient appelés à la vérité. Et vous pouvez aisément comprendre qu'il était hors de question pour ces hommes d'essayer de convaincre le Christ de quoi que ce soit. C'est eux qui allaient apprendre. C'est eux qui allaient apprendre et pas l'inverse. Remarquez que le Christ n'allait pas enseigner l'Église directement. Ceux qui allaient le faire étaient ces hommes qu'il appela et qu'il enseigna personnellement pendant 3 ans et demi. Et l'Église allait commencer moins de 2 mois après sa dernière Pâque, en compagnie de ces hommes. Qu'est-ce qui leur enseigna? L'Évangile. Et aujourd'hui, c'est la mission de l'Église d'annoncer l'Évangile au monde. Et puis, enseigner à ceux qui répondent à l'appel de Dieu tout ce que le Christ leur a enseigné. Ça, vous pouvez voir dans Matthieu chapitre 24, verset 20. Cet évangile est la famille de Dieu qui régnera dans le monde harmonieux et paisible sous le gouvernement de Dieu que vous allez l'entendre lors de le sermon du grand dernier jour, n'est-ce pas? Isaïe chapitre 9, verset 5 et 6. Isaïe chapitre 9, verset 5, si vous voulez bien. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Le monde chrétien a entendu parler du Christ en tant que sauveur, mais il ne sait pas que le Christ va revenir pour régner. Et nous voyons que la domination reposera sur son épaule. Verset 6. Donnez à l'empire de l'accroissement, et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Et nous savons que le trône de David est toujours là aujourd'hui, comme cela avait été prophétisé. Il se trouve en Angleterre, mais il sera bougé de là et établi à Jérusalem pour le Christ. Mais au fond, avant de faire partie de ce gouvernement qui sera établi sur terre, il faut qu'il se passe un changement majeur. Jésus expliqua ce changement à Nicodème. Jean chapitre 3, verset 3 au verset 6. Jean, le troisième chapitre, s'il vous plaît. Jean 3, verset 3 au verset 6. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Et c'est Jésus qui répond, il dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Nous devons donc subir une autre naissance, une naissance de l'esprit. Et sans ça, nous ne resterons que chair, et la chair est destinée à mourir. Mais lors de cette deuxième naissance, nous naîtrons esprit. Nous serons des fils de Dieu à part entière, mais aujourd'hui, seul le Christ est né ainsi. Et voilà pourquoi il est le premier né. Et en naissant ainsi, Dieu devint son Père. Jean 1, verset 1. Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Il y avait donc deux personnages dès le début. Un s'appelait Dieu et l'autre s'appelait la parole. Dieu est un nom de famille. Et les deux ont créé l'homme. Et voilà pourquoi il est dit dans Genèse, « Faisons l'homme à notre image ». Il s'agit bien de deux personnages qui sont d'accord, qui travaillaient sur un même projet. Toujours dans Jean 1, le premier chapitre, verset 14. « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » La parole s'est dépouillée de sa divinité pour venir sur terre en tant que simple homme. Et c'est à ce moment-là qu'il appela les hommes qui faisaient carrière dans le pêche et qu'il se mit à les enseigner. Et l'aventure de tout véritable chrétien ou tout véritable disciple est une aventure d'éducation, d'apprentissage, comme on a expliqué hier soir, nous apprenons tous, en apprenant tous les jours de par nos études, nos méditations, nos lectures, les sermons, nos épreuves. Nous devons apprendre et ne jamais nous lasser d'apprendre. Nous sommes ici pendant 8 jours pour apprendre encore et encore. Adam et Ève avaient reçu une éducation. Ils avaient reçu des instructions et avaient l'accès à l'arbre de vie. Mais ils n'écoutaient pas les instructions données et préférèrent suivre un autre discours qui les coupa de l'arbre de vie. Aujourd'hui, si nous sommes repentis, si nous avons sincèrement reconnu que nous avions tort, et si nous sommes baptisés, nous avons, nous aussi, accès à l'arbre de vie. L'homme est capable de recevoir des connaissances, de les accumuler. Mais pour comprendre ce qui relève du spirituel, vous savez, il faut une ouverture d'esprit spéciale que seul Dieu peut donner. Je ne vous apprends rien si je vous dis que l'homme peut apprendre une foule de choses. Vous savez bien, mais c'est concernant la matière. C'est d'ailleurs fabuleux ce que l'homme est arrivé à comprendre et à concevoir, mais ça reste dans le domaine de la matière. Il essaie bien de philosopher, mais là, il fait fausse route, comme vous le savez. La clé pour comprendre, et bien comprendre, ce qui relève du spirituel, la clé pour comprendre comment avoir une bonne relation avec Dieu et avoir une bonne relation avec son prochain, cette clé, Dieu seul peut la donner. Et l'histoire des deux arbres dans le jardin d'Éden est également une histoire d'éducation. Dieu avait expliqué à Adam et Ève ces deux arbres. Il avait donné des instructions précises. L'arbre de la connaissance du bien et du mal est un arbre qui ouvre la porte à l'apprentissage personnel du bien et du mal. Alors que l'autre arbre ouvre la porte de l'apprentissage qui vient de Dieu. Un enseignement qui vient de Dieu. Et malheureusement, vous savez comme moi qu'Adam a fait le choix de l'apprentissage personnel et nous en connaissons tous le résultat. Car ce choix n'était en fait pas le choix d'un apprentissage uniquement personnel, mais un enseignement personnel sur la mauvaise influence de Satan. Et ce, dès le départ, puisque c'est lui qui les poussa à faire ce mauvais choix. Et c'est en effet par nos choix que nous apprenons. Dieu nous laisse libres de nos choix. C'est en faisant des choix que nous apprenons et que nous construisons notre caractère. Mais puisque Adam fit le choix d'apprendre par lui-même et non en faisant confiance en Dieu, Dieu lui coupa l'accès à l'arbre de vie. En fait, il lui coupa l'accès au Saint-Esprit. Hébreux, chapitre 9, verset 27, s'il vous plaît. Hébreux, chapitre 9, verset 27. Comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Adam va donc revenir à la vie. Il comprendra son erreur. S'en repentira-t-il? Je n'en sais rien. Il comprendra son erreur. Il en comprendra les conséquences terribles pour l'humanité entière. Mais il comprendra également que le Christ, après son ministère, a payé la pénalité de la mort de ses péchés et que, par conséquent, s'il se repent, il peut vivre comme il aurait dû le faire. L'humanité va comprendre ses erreurs et aura l'occasion de s'en repentir et de changer. Et on peut espérer que la majorité le fera, n'est-ce pas? Difficile d'imaginer que certaines personnes, malgré ce qu'on leur expliqua, feront le choix qui les mènera à l'étang de feu. Mais c'est ainsi. Les gens auront encore une fois un choix d'éducation, apprendre de leurs erreurs et se repentir, ou rejeter la voie de Dieu et retourner à la voie de Satan. La voie de Satan, nous le voyons autour de nous. Elle va sombrer dans une horreur telle que l'humanité n'en a jamais connue. Et comment les gens pourront-ils faire le choix d'y retourner? C'est difficile de le comprendre, n'est-ce pas? Les gens auront vu ce que donne le système judiciaire humain, le système législatif, qui n'est pas basé sur les lois divines. Et vous savez que les universités les plus brillantes nient même l'existence de Dieu. Après le mauvais choix d'Adam et Ève, Dieu ne renonça pas. Il révéla sa voix, sa loi, à un homme et sa famille et ses descendants qui devinrent un peuple. Mais le peuple se détourna de lui. Le peuple le rejeta et se noya dans les voies du monde. Il créa une société basée sur des lois humaines, sur un système judiciaire humain, sur un système d'éducation humain. Il essaya toutes sortes de gouvernements dans une quête d'un gouvernement qui fonctionne, en oubliant que Dieu a prévu tout ça. Complètement oublié que Dieu a prévu tout ça. Il essaie d'inventer ce que Dieu avait déjà inventé. Et le résultat est que la paix ne règne pas dans le monde. L'homme a voulu également inventer un système économique. Mais l'économie du monde est d'une fragilité qu'on n'imaginait pas il y a 20 ans, n'est-ce pas? Nous évoluons dans un monde où les gens vivent de crédit. Les gens et leurs entreprises sont esclaves des banques. Et là aussi, Satan influence l'homme et ses raisonnements. Les quêtes de profit se font au péril de la qualité des produits, au péril de la santé des populations, vous le savez bien. Les gouvernements ferment les yeux sur les poisons qu'on déverse sur le sol, car le profit est bien plus important que la population de la population. Pardon, plus important que la santé de la population. Il y a 20 ans, qui aurait écouté un homme qui disait que le système bancaire était fragile? Aujourd'hui, tout le monde le sait. Il y a 20 ans, qui aurait écouté un homme qui prétendait que la société de consommation fonce droit vers le mur? Aujourd'hui, tout le monde le sait. Il y a 20 ans, qui aurait écouté un homme qui mettait en garde contre la pollution? Aujourd'hui, des pétitions courent partout pour essayer d'enrayer l'influence des sociétés chimiques qui produisent des poisons. Le monde moderne se réveille et ne peut s'empêcher de faire un constat plus que négatif sur la situation. Les gens sont mécontents, ils sont angoissés. Les générations passent et la société continue dans le chemin sans espoir. Les gens meurent car ils sont créés physiques, frères et sœurs. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 22. En Corinthiens, chapitre 15, verset 22. Nous lisons ici dans 1 Corinthiens, « Comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. » Donc, il y a de l'espoir. Il y a donc une lumière au bout du tunnel, que ce soit pour les gens qui vivent ou ceux qui ont vécu. Mais avant ça, le monde va sombrer encore plus loin dans les conséquences de son rejet de son rejet des voies divines. Les conséquences de s'être privé volontairement du Saint-Esprit. Mais malheureusement, mais pardon, pas heureusement, je devrais dire, excusez-moi, heureusement, Dieu va changer la situation. Joël chapitre 2, on l'a vu l'autre jour, mais lisons Joël chapitre 2, verset 27 et verset 28. Joël chapitre 2, verset 27. Et nous lisons ici que « Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, qu'il n'y en a point d'autre, et mon peuple ne serait plus jamais dans la confusion. Et après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. » Dieu va intervenir et rétablir l'accès au Saint-Esprit. L'humanité entière saura qu'il est l'Éternel, notre Dieu. Et Dieu ne se réjouit pas de voir l'état du monde. Nous lisons dans Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Dieu n'aime pas voir le monde souffrir. Il n'aime pas voir les gens souffrir. Il aspire à une période d'abondance pour tous. Abondance, non pas matérielle, mais abondance dans tous les domaines. Le reste du verset 10 dit, « Je suis venu afin que le brebis ait la vie, qu'elle soit dans l'abondance. » Il veut que ces brebis aient la vie. Pour cela, les brebis doivent changer de voie. Car la voie que le monde suit est la voie de la mort depuis la mauvaise décision d'Adam. Et Dieu va mettre fin à cette mauvaise voie. Mais pour changer la direction du monde, le Christ est venu pour payer l'amende du péché. Et puis, il a fondé son Église. Et c'est là que nous sommes pour le moment, frères et sœurs. Nous ne sommes pas encore à l'époque où le Saint-Esprit sera disponible pour tous. N'oublions pas Jean 6, 44. Nul peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et par conséquent, le Saint-Esprit, depuis le début de l'Église jusqu'à nos jours, le Saint-Esprit n'est disponible qu'à ceux qui sont appelés. Et ce n'est pas que Dieu est injuste, c'est tout simplement une question de timing. Chacun aura sa chance. Et donc, quand il était sur terre, qu'est-ce qu'il a fait? Mais le Christ a appelé les disciples. Il y en avait 14, n'est-ce pas? On parle souvent de 12, mais il y était 14. Et il les a enseignés pendant 3 ans et demi. Une fois leur éducation terminée, qu'est-ce qu'il a fait? Il leur confia une mission. Et cette mission est de proclamer le message qu'il était venu apporter. Et les apôtres allaient proclamer le message et puis nourrir spirituellement ceux que Dieu allait appeler. Mais il n'a jamais été question d'en appeler beaucoup. Dieu veut un petit troupeau. Et ce petit troupeau, son retour, quand le Christ reviendra, ce petit troupeau l'assistera dans l'éducation des millions et des millions de gens qui auront survécu. Ceux qui seront encore en vie et ceux qui vont naître pendant le millénaire. Ou ceux qui reviendront à la vie lors de la seconde résurrection. Ces gens auront besoin d'être éduqués, comme furent les disciples, comme nous le sommes, et le seront jusqu'à notre dernier souffle, si nous tenons bon. C'est notre tour, frères et sœurs, maintenant d'apprendre. C'est notre devoir d'apprendre. Nous devons comprendre un système basé sur la loi de Dieu et non sur la loi du monde. Nous devons refaire notre éducation et comprendre que celle que nous avons reçue n'est pas adéquate. Nous devons comprendre comment la société devrait fonctionner, car nous l'aiderons à fonctionner correctement plus tard. Apocalypse chapitre 3, verset 14. Apocalypse chapitre 3, verset 14, s'il vous plaît. Apocalypse chapitre 3, verset 14, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Verset 20, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur mon trône. Et nous allons aider le Christ à refaire l'éducation du monde lorsqu'il sera revenu. Et voilà pourquoi nous devons prendre au sérieux l'éducation que nous recevons maintenant. Et nous recevons cette éducation, frères et sœurs, au sein de l'Église et nulle part ailleurs. Verset 21. Celui qui vaincra, je ferai asseoir avec moi sur mon trône comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur mon trône. Frères et sœurs, la civilisation moderne est bientôt terminée. Et nous jouerons un rôle dans la prochaine civilisation qui sera la bonne. Elle sera juste, équitable, saine. Tout ce que nous déplorons aujourd'hui, la violence, la guerre, le profit aux autres, l'injustice, la pollution, et tout ce dont les hommes et les femmes et les enfants peuvent souffrir, tout ça n'existera plus dans la nouvelle civilisation. Mes frères et sœurs, nous serons là. Nous serons là pour y veiller et pour éduquer les gens. Verset 26, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Mais pour cela, frères et sœurs, nous devons apprendre. Est-ce votre cas? Êtes-vous en train d'apprendre les voies de Dieu, vraiment pour les mettre en pratique maintenant? Nous savons bien que Dieu va faire de nous les sacrificateurs pour notre Dieu. Un privilège immense. Nous régnerons sur la terre avec Christ à ce moment-là. Frères et sœurs, au sein de l'Église de Dieu, bâtie par le Christ, au sein de ce petit troupeau qui est tenu bon sur la vigilance de Dieu à travers les siècles, comme il avait promis, au sein de cette Église, nous apprenons à devenir des rois et les sacrificateurs. Voilà à quoi sert cette Église. Et si vous êtes parent, et même si vous ne l'êtes pas, vous savez que l'éducation prend du temps. Et voilà pourquoi la fête des pains sans levain, qui symbolise notre écolage, dure 7 jours. Et voilà pourquoi la fête des tabernacles, qui symbolise l'écolage aussi, en fait l'écolage du monde, ça représente l'écolage du monde, dure 7 jours aussi. Tout commence évidemment par notre repentance et notre réconciliation avec Dieu, qui est possible grâce au sacrifice de Dieu. C'est ce que symbolise la Pâque, n'est-ce pas? Mais après ça, vient une expérience de toute une vie sur terre. notre éducation spirituelle qui est accompagnée par des changements continuels qui tendent vers la perfection. Non pas que nous sommes parfaits, jamais nous ne pourrons l'être tant que nous sommes mortels. Tout un processus d'élimination du péché et notre apprentissage de la parole et la vie de Dieu. Et ensuite vient la Pentecôte qui symbolise le Saint-Esprit qui est donné aux repentis, aux baptisés. Nous savons que l'étape suivante symbolise le retour du Christ, qui est symbolisé par la fête des trompettes. Et ensuite, Satan est mis hors d'état de nuire. Il sera enchaîné. Et cela est symbolisé par le jour des expiations. Et puis la sixième étape, la fête des tabernacles, qui est une longue période d'éducation du monde. Et puis terminé, le dernier grand jour qui symbolise le jugement qui viendra après les 100 ans. C'est le grand plan de Dieu qui est révélé par la succession de 7 fêtes annuelles. Et Dieu va renverser la balance. Il va rétablir la société telle qu'il l'avait conçue. Mais Adam et Ève ont fait le mauvais choix et ont suivi la voie de Satan. Et l'humanité entière était plongée dans une voie contraire à la voie de Dieu. Jean chapitre 8, s'il vous plaît, verset 43 et verset 44. Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, verset 43, verset 44. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Il dit. Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Car il est menteur et le père du mensonge. Les gens qui ne sont pas convertis sont les enfants du diable. Ils ignorent, évidemment, mais un jour ils comprendront et ils changeront de père. Mais pour le moment, ils sont toujours sous l'influence de Satan qui les pousse à être égoïstes, menteurs, être rempli de vanité, de propre justice, à se considérer supérieur aux autres. Cette société malade a été fondée par Satan, par l'intermédiaire d'Adam. La société que nous célébrons ici, aujourd'hui, ensemble, est une société qui sera fondée par Dieu, par l'intermédiaire de l'Église. Et l'Église est fondée sur les apôtres et les prophètes. Et le Christ en est la pierre angulaire. Et donc, on s'est servi des gens sous son influence pour construire cette civilisation. De même, Dieu va se servir de son Église, le membre de son Église, pour construire une autre civilisation pendant le millénium et dans le royaume. Et si les personnes non converties sont les enfants de Satan, dans l'Église, nous devenons les enfants de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 16, s'il vous plaît. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 16. Excusez-moi. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 16, nous lisons « Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles ? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Nous sommes le peuple de Dieu. C'est un privilège que nous avons. Nous sommes le peuple de Dieu au même titre que le monde est le peuple de Satan. Et voilà pourquoi nous devons sortir du monde. Nous devons rejeter les voies de Satan. Nous devons rejeter les voies du monde. Verset 17, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ceux qui sont impurs, et je vous accueillerai. Frères et sœurs, nous devons comprendre combien le monde est influencé par Satan et comprendre combien nous devons nous en éloigner. Et j'en reviens au premier sermon que je vous ai donné. L'Église est un havre de paix et d'harmonie. Elle doit l'être loin de tout ce que trouve dans le monde. L'Église est notre écolage où nous apprenons à vivre bien différemment du monde, n'est-ce pas? Mais pour faire partie de l'Église, nous devons avoir l'Esprit de Dieu qui demeure en nous et que le Saint-Esprit nous guide. C'est très important. L'Esprit de Dieu doit nous guider. Il ne suffit pas de venir à l'Église, et il ne suffit pas d'être baptisé. Nous devons avoir l'Esprit de Dieu qui demeure en nous, et nous devons le laisser guider notre vie. Car le Saint-Esprit nous aide à changer. Et c'est ainsi que nous devenons différents du monde. Romains chapitre 8, verset 7. Partie du verset 7. Romains 8, nous allons commencer au verset 7. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le même elle ne le peut même pas. Voyez-vous, le véritable chrétien est un être changé. Si ce n'est pas le cas, il n'est pas converti. Mais n'oublions pas que nous recevons un peu de Saint-Esprit et ensuite nous devons croître. Nous croître en grâce et en connaissance. Nous devons nous éduquer afin de faire croître le Saint-Esprit en nous, même la quantité de Saint-Esprit en nous. Frères et sœurs, vous vous demandez où vous vous êtes situés dans ce long processus? Eh bien, posez-vous les questions suivantes. Combien de temps priez-vous? Ou combien de temps passez-vous à prier et priez-vous de tout votre cœur? Priez-vous pour les autres? Voilà un bon test. Verset 8. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Posez-nous la question, comment vivons-nous? Selon la chair ou selon l'esprit? Verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Et si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas appartenir à Christ. Verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Nous devons donc laisser le Saint-Esprit nous conduire. Verset 15, « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants engendrés de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Et c'est très important. Si toutefois nous souffrons avec lui, certaines personnes n'acceptent pas que nous souffrions. Ils estiment que nous ne devrions pas avoir d'épreuves. Ça, c'est une erreur. Nous sommes appelés à souffrir avec le Christ, n'est-ce pas? Et certains ont été martyrisés et d'autres le seront encore. C'est ainsi. Nous ne sommes pas appelés à une vie dépourvue d'épreuves. Et ces épreuves sont des occasions d'apprendre, frères et sœurs. Apprendre et de nous améliorer. Elles font partie de notre éducation, de notre écolage, de notre apprentissage. Nous devons nous en réjouir et non les rejeter comme étant des épreuves que Dieu n'est pas de notre côté. Frères et sœurs, notre écolage, notre éducation n'est pas facile. Tout apprentissage demande des efforts, comme nous avons entendu hier soir. En Romains chapitre 12, verset 1. Romains chapitre 12, verset 1. Romains chapitre 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Un sacrifice vivant n'est pas une expérience facile, n'est-ce pas? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous devons être différents du monde. Nous devons subir une transformation. C'est l'écolage. C'est l'éducation, c'est l'apprentissage dont je vous parle ici au sein de l'Église. Nous devons renouveler notre intelligence et comprendre la volonté de Dieu. Et voilà ce que nous devons apprendre, car c'est exactement ce que nous devons enseigner, frères et sœurs. Nous devons enseigner la volonté de Dieu. Verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Et plus les années passent, plus je prends conscience combien l'humilité est essentielle dans ce processus. Et voici que Dieu la mentionne dans le contexte de cette éducation que nous subissons, que nous recevons dans l'Église. Et à juste titre, car si nous n'avons pas cette humilité, si nous avons une opinion trop haute de nous-mêmes, nous sommes alors hermétiques à ce que nous devons apprendre. C'est tellement clair. Sans l'humilité, nous ne pouvons pas discerner quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. C'est comme ça que certaines personnes s'éloignent de ce qui est bon, agréable et parfait. Ils s'imaginent avoir trouvé une nouvelle compréhension. Et en fait, ils sont victimes de leur manque d'humilité. Et c'est vraiment triste à voir. il risque de perdre des connaissances fondamentales pour se perdre dans le propre raisonnement, dans la propre justice. C'est ce que la Bible nous enseigne. Frères et sœurs, ne suivons pas nos propres raisonnements comme Adam a fait. Laissons-nous conduire par le Saint-Esprit pour apprendre et à discerner la volonté de Dieu. Verset 4. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Nous sommes tous membres les uns des autres, membres de l'Église de Dieu. Frères et sœurs, les disciples ont été appelés pour enseigner l'Église. Nous sommes appelés, frères et sœurs, pour enseigner le monde. Voilà à quoi sert l'Église. Et voilà pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Nous en faisons partie, frères et sœurs, si nous nous laissons guider par le Saint-Esprit de Dieu, cette puissance qui vient de Dieu, que Dieu nous donne lors de l'imposition des mains, qui démontre notre soumission à Dieu lors de notre baptême. Alors, nous pouvons le laisser nous guider afin de discerner de mieux en mieux, quelle est la volonté de Dieu ?